Salut Loïc.
Salut Jean.
Alors Loïc, tu es un ancien Arrageois, que les gens qui sur Arras écoutaient beaucoup de jazz ont certainement rencontré et connaissent. Il y a déjà pas mal d'années maintenant,
Ça fait longtemps,
puisque tu es pianiste, hein, pianiste de jazz, mais maintenant
oui.
tu vis en Suède.
Depuis, ça fera 17 ans cet été, oui. 17 ans que
17
j'y
ans?
vais. Ouais.
17 ans que tu es
Bon, ça fait plus
parti.
longtemps que ça que j'ai quitté Arras. Hein. Arras, j'ai quitté Arras en 91.
Ah ouais.
Ouais, pour aller à Lille, et puis Lille, un peu plus de 3 ans, et puis après Paris. Et puis en 2003, je suis venu m'installer en Suède.
D'accord, mais avant 2003, on t'a vu quand même assez souvent, même quand tu étais Lillois.
Au théâtre d'Arras,
D'accord.
même quand j'habitais à Paris, j'ai joué, je ne sais pas, mais c'est pas mal de fois à Arras, au théâtre d'Arras, avec différents groupes, différents projets.
D'accord. Alors tu es parti en Suède, en fait, pourquoi? Pour des raisons musicales ou simplement personnelles?
Les deux, en fait, j'habitais à Paris, j'avais beaucoup de copains à Paris, mais je sais pas, je m'étais pas complètement acclimaté peut-être à la vie du musicien de jazz parisien. Et puis, j'étais déjà allé en Suède et au Danemark, et ça me disait bien d'y retourner. Donc d'abord, je suis parti, quand j'étais au Conservatoire de Paris, j'ai fait un semestre comme étudiant en échange à Malmö, dans le sud de la Suède, tout en habitant à Copenhague, puisque c'est juste, il y a une demi-heure de train entre les deux. Enfin, en ce moment, c'est impossible de voyager entre les deux. En temps normal, il y a une demi-heure de train à peu près entre les deux, ou 40 minutes. Et donc voilà, donc j'habitais à Copenhague et je faisais mes études à Malmö. Et puis ça me plaisait bien. Et en même temps, j'avais déjà rencontré à Paris, j'avais déjà rencontré celle qui depuis est devenue ma femme. Et donc voilà, donc mon intérêt pour la Scandinavie, pour la musique aussi scandinave, j'aimais bien tout ce qu'on appelle ECM,
Le
j'adore
label
le
ECM.
label ECM, voilà. Et puis par exemple Bobo Stenson, un pianiste que j'ai toujours beaucoup aimé, que je connais bien maintenant d'ailleurs,
Ah.
qui habite pas loin de chez moi. Et puis aussi un peu le ras-le-bol de Paris. Enfin bon, même si maintenant je rêve de Paris, souvent, j'ai une sacrée nostalgie. Mais enfin bon, la vie parisienne, c'est pas toujours facile. Et comme musicien de jazz, c'était assez dur, je trouve. Donc voilà, donc c'est comme ça que je suis venu en Suède.
Alors tu vis en Suède, tu vis à Stockholm?
Non, non, je vis dans le sud de la Suède, une petite ville qui s'appelle Lund, qui est à peu près de la taille d'Arras, on va dire.
D'accord.
Mais c'est une des plus grosses universités en Suède. Donc, c'est une petite ville, mais c'est quand même une ville très internationale. Et puis, comme c'est tout au sud de la Suède, c'est à 20 km de Malmö, à peu près. Même pas, d'ailleurs, je ne connais pas les distances exactes. Donc, c'est près du Danemark, c'est près du continent, comme on dit ici, quoi. Donc,
D'accord.
c'est pas isolé, quoi. C'est la Scanie, la région du sud de la Suède, c'est une des régions les plus peuplées en Suède. Parce qu'il y a Göteborg, sur la côte ouest, qui est une grosse agglomération, et puis Stockholm, bien sûr. Mais sinon, en Suède, il y a beaucoup de parties qui sont très, très peu peuplées, quoi.
Oui, il y a une
Alors,
très
la
faible
Scanie.
densité de population en Suède. Bon, c'est un pays qui est assez grand, hein, mais qui
Oui. Ça
que
fait plus de.
12 millions d'habitants, c'est ça?
Même pas, je crois, 10 ou 11, oui. Et
Ah
ça
ouais.
fait. Et le sur sa longueur, le pays fait plus de 2 000 km de longueur. Le nord de la Suède, c'est un désert, quoi. C'est très, très peu
Alors,
peuplé.
ouais. Donc tu vis en famille, donc dans le sud de la Suède,
Voilà.
trois enfants.
Voilà.
Et alors, bon, alors on va parler de comment vous vivez cette situation avec le coronavirus.
Ouais.
Mais justement, l'intérêt aussi de cet entretien, c'est que en Suède, manifestement, il y a une politique qui est différente pour combattre
Voilà.
le virus. Il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de contraintes qui soient instituées et imposées. Enfin, c'est ce que
Pas
j'ai
de.
compris.
Alors, les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. Les écoles des âges à partir du lycée sont fermées. Enfin, elles ne sont pas fermées, mais l'enseignement est par correspondance.
Donc,
Donc,
lycée, université, ne
le
fonctionne
lycée,
plus sur
l'université.
place.
Alors, moi, par exemple, je donne beaucoup de cours. Je travaille dans deux écoles différentes qui sont. C'est un truc typiquement suédois. Ça s'appelle Folkhögskola. C'est un système, c'est un truc qui a, bon, je vais essayer de faire ça court, mais c'est un truc qui est né au Danemark il y a 150 ans. Et en fait, c'était à l'origine pour que les enfants de paysans puissent, qui donc commençaient à travailler tôt, pour qu'ils puissent rattraper l'éducation qu'ils n'avaient pas pu suivre, quoi. Et puis avec le temps, et surtout dans les années 70, ça a pris un autre tournant où ça a été peut-être justement pour suivre des formations différentes. Et c'est là qu'il y a eu tout un mouvement d'école Folkhögskolor, donc d'école du peuple, école supérieure du peuple, on pourrait dire, qui ont commencé à proposer des formations artistiques, par exemple. Donc musique classique, jazz, musique folk, ou pour être écrivain, art plastique, plein de choses différentes.
C'est gratuit. Et toi, tu donnes des cours de piano ou de musique en général ?
Alors, dans une des deux écoles, je suis pour l'instant directeur de la classe de jazz, par intérim, mais bon, depuis un peu plus d'un an. Depuis un an. Et là, donc, mis à part la direction du truc, j'ai le piano et l'entraînement de l'oreille, ear training, l'oreille, quoi. Ouais. Apprendre à jouer ce qu'on entend. Et je donne aussi des cours dans une autre du même genre, où là, j'ai des ateliers, des ensembles.
Donc, on parlait des mesures qui sont prises en Suède, à la différence de celles qui sont en France, puisqu'en France, bon, il y a un confinement très fort. En Suède, comment tu expliques le fait qu'il n'y ait pas ce type de mesures ? Est-ce que le virus est moins présent, lié par exemple à l'absence de densité
Peut-être que ça, c'est un argument, mais je dois dire que c'est assez mystérieux quand même. Bon, je t'ai prévenu avant l'émission, j'écoute plus les infos françaises que les infos suédoises. C'est le mal du pays qui fait ça. J'écoute beaucoup France Culture d'une manière générale. Bon, en ce moment, il n'y a plus d'infos de France Culture, donc c'est les infos de France Inter, mais je ne sais pas. Là, justement, je viens de lire une partie de l'interview du Premier ministre suédois, où il dit que le but, c'est d'aplanir la courbe du nombre de malades. Donc, en fait, il donne le même argument que la France ou l'Italie.
Oui, c'est ça, oui.
Mais il préfère apparemment faire confiance à la discipline, à l'autodiscipline des Suédois.
Oui, en fait, c'est de dire aux gens, vous êtes responsable vous-même du fait de vous confiner.
Je pense qu'il y a de ça. Faut pas voir les personnes. Par exemple, mes enfants voient pas leur grand-mère, quoi, suédoise ici, pour éviter de la contaminer. Des choses comme ça. Je pense que ils ont voulu fermer les écoles justement pour faire un peu la même chose que dans les autres pays, pour empêcher la contamination. Et en même temps, ils se sont dit les lycéens, ils peuvent être tout seuls à la maison. Je crois que c'est un argument. Tandis que les plus petits, ils vont pas être seuls à la maison. Donc soit les parents vont pas travailler. Et soit les parents vont continuer à travailler, les petits vont être chez les grands-parents et ça ne va pas améliorer la situation.
Et donc, les plus petits vont à l'école ?
Moi, mes enfants vont à l'école. Alors après, ce qui est difficile, c'est que par contre, si tu as le moindre symptôme d'un rhume, un petit peu tout ça, tu ne peux pas aller à l'école. Le problème, c'est qu'un rhume, tu peux très bien tousser pendant un mois après des suites d'un rhume. Donc, sur les trois dernières semaines, mes enfants, ma petite, elle est allée à l'école trois jours, les trois derniers jours, là, parce que maintenant, c'est les vacances qui commencent.
D'accord. Alors, faire confiance aux gens, c'est un peu la philosophie de la chose. Est-ce que d'une certaine manière, ça marche, quoi ?
Ça marche.
Peut-être un peu des éléments de comparaison entre les comportements des gens en France et en Suède.
Ça marche. Je ne sais pas. Quand j'envoyais mes enfants à l'école, parfois je me suis dit que c'était un peu limite. Bon, je suis pas un bon citoyen suédois peut-être, mais je me suis dit que c'était un peu limite. Et l'autre jour, je parlais avec une autre maman suédoise qui me disait que elle-même, elle est infirmière, elle avait envoyé sa fille à l'école et l'école a appelé. Ils ont dit ah, mais elle tousse, il faut qu'elle rentre à la maison. Donc bon, je sais pas. À mon avis, on en reparlera dans 6 mois. On verra quelle stratégie a été payante, quoi, parce que il y avait un article dans le. Enfin, c'était peut-être pas un article, c'était sur le site du Monde. Les lecteurs pouvaient envoyer des questions à la correspondante du Monde en Suède. Elle disait un truc que je ne savais pas, parce que bon, comme en France, en Suède, on a fait des économies, bien sûr. On a voulu faire des économies sur toutes les choses pas très importantes, comme l'école et la santé, ouais. Les choses secondaires. Et ce que je ne savais pas, donc ça a vérifié, mais c'est ce qu'elle dit dans cette interview, cette journaliste, que la Suède a le plus bas taux de place en soins intensifs de tous les pays de l'OCDE.
Ah oui.
Donc le modèle suédois, je viens de voir Zazie dans le métro, donc je me permets de dire, un modèle suédois, mon cul. Pour citer Raymond Queneau. Non, mais c'est, alors je savais que le modèle suédois se dégradait, mais à ce point-là. Donc, je me dis que si l'épidémie prend de la vitesse, comme en France, en Italie et tout ça, ça va être la catastrophe. Et apparemment, c'est ce qui se passe à Stockholm. Ils sont au bout de leur capacité, là.
Ah oui, donc là, il y a un phénomène très aigu à Stockholm, la grosse ville.
Ouais, voilà. Ouais. Enfin, grosse ville, c'est 1,5 million d'habitants, c'est un peu plus que Lille, quoi.
Ouais. Alors, j'ai entendu qu'il y avait une pétition de scientifiques suédois demandant des mesures de plus contraintes, type
compétition. J'ai pas vu ça. Alors, aujourd'hui, c'est intéressant, mais je parlais avec plusieurs personnes qui disaient « Ah, mais… » qui trouvaient que le Premier ministre avait bien agi. Ben, il y a un truc peut-être culturel intéressant, c'est que les gens trouvent, enfin, les gens que j'ai entendus s'exprimer à ce sujet-là disent qu'ils trouvent que c'est bien que le Premier ministre suive les recommandations des experts. Il y a une plus grande confiance dans les experts, je crois, qu'en France. L'autre jour, j'entendais justement sur France Culture, je ne sais plus quel invité, dire c'est important que ce soit une décision politique. Parce que à la fin de la crise, c'est Macron qui va et Édouard Philippe qui vont être responsables. C'est pas les experts. Donc en France, c'est marrant d'entendre ce type dire c'est important que ce soit une décision politique. Et ici, les gens disent ah non, c'est bien, ils écoutent les experts. Le problème, c'est que les experts, ils disent pas tous la même chose.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Et donc je lisais un article. Bon, c'était un article du 12 mars où l'épidémiologiste d'État, donc je sais pas le gars qui conseille le gouvernement. Trouvait que ben, c'était mieux de garder les écoles ouvertes. Bon, c'était un article du 12 mars. Hein, et il disait, il n'y a rien qui nous prouve que les enfants seraient plus contagieux que d'autres. Mmh. Et par contre, quelques jours plus tard, il y a un article d'un chercheur, d'un médecin italien qui dit qu'il trouve que la Suède devrait fermer ses écoles aussi. Donc, c'est ça le problème des experts. C'est des experts, ils peuvent dire des choses différentes. Quoi.
Ouais. Alors, il y a une autre question qui est épineuse en France et je pense que ça doit se poser en Suède, c'est la question des masques. Est-ce que les gens ont des masques en Suède ?
Moi, je suis allé faire mes courses au supermarché aujourd'hui, j'ai vu un couple avec masque, mais ils étaient asiatiques. Donc, voilà.
Donc, il n'y a pas cette pratique. Peut-être qu'il n'y a pas des masques disponibles non plus.
Je ne pense pas. Je pense pas qu'il y ait une masque disponible. Je pense que, je n'ai pas trop suivi dans les détails, mais je pense que même le personnel soignant est à court de masques.
OK. Bon, donc voilà.
Tiens, un petit truc. C'est peut-être pas très. J'avais rendez-vous chez un médecin demain. Pour un truc complètement différent, un truc pour mes doigts de pianiste. Bon, rien de grave, hein, mais juste contrôler un truc. Ils m'ont appelé cette semaine pour annuler mon rendez-vous. Et la femme que j'ai eu au téléphone m'a dit « Bon, c'est pas que ton rendez-vous, on annule tous les rendez-vous. » Je dis « Ah bon, c'est à cause du Covid ?» Oui. Bon, voilà, j'en sais pas plus, mais alors est-ce que c'est qu'ils ont besoin de réquisitionner le personnel ou de réquisitionner les locaux ? Ou est-ce que c'est qu'ils ont trop de personnel absent parce qu'ils ont du personnel malade ? Mais pourtant, la Scanie, donc ça, c'est un Malmö, qui est la troisième plus grosse ville de Suède. Donc. Pourtant, la Scanie n'a pas été des plus touchées. Je crois que j'ai lu ce matin ou hier qu'il y avait 48 personnes à l'hôpital pour le Covid en ce moment. Mais bon, en Suède, c'est comme en France, ils ne testent personne.
Pas de test ?
Non, non. Victor, mon fils, avait la fièvre il y a 2 semaines. Et, oui, voilà. Et normalement, il avait rendez-vous chez le médecin pour des tests d'allergie. Bon, on a appelé, on a dit, voilà, normalement, il avait rendez-vous, mais c'est peut-être pas possible parce qu'il a de la fièvre, mais peut-être on peut venir quand même, comme ça, vous pouvez le tester. Mais non, il n'y a pas assez de tests non plus pour tout le monde, je pense. Donc, en fait, ils sont dans la même situation qu'en France, je crois.
Mmh. Alors, Loïc, un mot, ta compagne est d'origine éthiopienne
Enfin, elle est, oui, son père est éthiopien, mais elle a grandi et vécu en Suède toujours.
D'accord. Alors, et son père est en Éthiopie ? Vous avez des…
Ben, on aurait dû être en Éthiopie en ce moment. On aurait dû y partir mardi dernier, en fait, et on a été obligé d'annuler.
Bien sûr. Et vous avez des nouvelles un peu de… Comment ça se passe là-bas ? Est-ce qu'il y a
pas de nouvelles fraîches. Pas de nouvelles fraîches, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est son père qui nous a dit assez tôt, comme moi, je pensais encore que non, ça ne va pas être si grave que ça. C'est son père qui nous a dit, il faut que vous annuliez, vous ne pouvez pas venir ici à cause du Covid. Alors qu'ici, on n'avait pas l'air de prendre la chose trop au sérieux encore. Mais le problème, c'est que là-bas, je ne sais pas s'ils ont des statistiques. J'ai regardé sur le site du Monde encore il y a quelques jours, ils avaient officiellement 2 malades en réanimation, je crois, et aucun mort en Éthiopie. C'est possible que l'épidémie ne soit pas arrivée jusque-là, mais ça m'étonne un peu. L'Éthiopie, c'est un pays qui, en plus, qui a beaucoup, beaucoup de business avec la Chine. Et le,
qui un a beaucoup pays
de business avec la Chine. Et en plus, l'Éthiopie n'avait pas fermé le trafic aérien avec la Chine à l'époque, en tout cas. Donc,
OK. On va peut-être terminer cet entretien, Loïc. Je vais te demander un petit peu comment tu analyses un peu cette situation qui questionne tout le monde. C'est ça aussi qui fait que c'est un événement particulièrement prégnant, quoi. On est obligé de réfléchir à de grandes questions, quoi. Comment tu vois ça, toi ?
J'essaye de me dire qu'il y a peut-être quelque chose de positif dans tout ça. Enfin, quelque chose de positif qu'on va peut-être enfin apprendre certaines leçons qu'on aurait dû... Enfin, on n'avait pas besoin de ça pour y réfléchir avant, mais il y aura des bonnes choses à en tirer, j'espère. Par exemple, ce que beaucoup de gens disent aussi, que ça montre bien que dans certains cas, on peut prendre des décisions plus drastiques que ce qu'on a fait avant. Par exemple, il y a la crise environnementale et climatique. Je me dis que c'est bien, ça fera une petite pause, il y aura moins d'avions pendant un moment. Et aussi, on se rend compte que le déficit budgétaire, tout compte fait, ça peut passer au second plan dans certaines situations. Le personnel de santé qui est en grève en France depuis des mois, maintenant, on leur fait confiance et ils sont devenus des héros, mais il y a encore 2 mois, ils devaient se battre pour défendre leur retraite.
Ils se faisaient matraquer.
Voilà. Donc, j'espère que... Mais malheureusement, je ne suis pas forcément optimiste, mais... J'espère qu'on en apprend quelque chose. La bourse qui s'effondre, ça peut avoir des conséquences pour nous aussi, je ne sais pas. Moi, ça me fait un peu rigoler, personnellement, pour l'instant. Je suis peut-être inconscient, mais je trouve ça plutôt rigolo. Donc, j'espère que ça peut amener quelque chose de positif. Après, je pense que, comme la plupart des gens, je me dis que j'espère que ça n'a pas touché mes proches, quoi. Et ce qui fait que je ne suis pas trop, trop angoissé, c'est qu'apparemment, ça ne touche pas trop les enfants. Sinon, je pense que je suis comme la plupart des gens qui ont des gosses. C'est ça qui me fait flipper le plus, bien sûr, hein. Mais bon, je me dis que ça va être dur de dans quelques mois. Ça m'étonnerait si je ne connais pas quelqu'un qui y est passé. Et ça fait peur. Mais en même temps, je me dis que c'est... il y a la mortalité infantile, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était de 20 ou 10%. Les gens ne vivaient pas si vieux. Maintenant, on est 8 milliards sur la Terre. Je me dis que d'une certaine manière... c'est pas très étonnant, quoi. On n'est pas des dieux, quoi. On fait partie de notre environnement, mais c'est dramatique.
Tu as le sentiment que beaucoup de gens réfléchissent à cette situation en posant des questions de fond, quoi, et que après cette pandémie, il y aura une volonté de faire différemment. Alors peut-être ça ne se passera pas.
C'est difficile à dire parce que
le capitalisme est résilient.
Ouais, c'est difficile à dire parce que les gens avec qui je parle de ces choses-là, en général, c'est des gens avec qui je parlais de ces choses-là déjà avant. C'est des gens qui pensent comme moi, quoi. Donc ça fait que nous conforter dans ce qu'on pensait déjà avant. Mais je me dis que d'une certaine manière, c'est difficile de pas se rendre compte. Déjà, ça peut donner un argument, par exemple, aux écologistes, de dire dans quelques mois, dans quelques années, vous voulez pas le faire, c'est pas possible, mais vous l'avez fait pour l'épidémie de Covid.
Ouais.
Donc peut-être que ça pourrait donner un bon argument, par exemple.
Il sera quand même difficile après ce qui s'est passé de continuer à s'aborder le service public de la santé, quand même.
Oui, ça, au moins, ça, je pense que ça va être difficile. Ouais. Ouais. Ça va être difficile. Et puis j'espère qu'il y a des gens qui vont rendre des comptes. C'est l'article dont on parlait l'autre jour là, sur cette usine de masques de protection là.
Fabrication de masques en France, oui.
Ouais, qui a été sabordée sous la présidence Hollande et Macron. Donc quand même, des gens qui sont censés être disons centre-gauche qui laissent une entreprise américaine qui a profité du CICE pour prendre des dividendes et après couler la boîte. Parce que grâce aux nouvelles lois Macron, d'ailleurs, ils pouvaient rendre compte de leur économie, de leurs finances juste au niveau national. Donc, ils pouvaient montrer des déficits alors qu'en fait, c'est une boîte qui était rentable. Donc, voilà. Mais je ne suis pas très optimiste par rapport à tout ça. Par exemple, j'ai lu toujours dans Le Monde, je crois que Trump a atteint son record de popularité.
Eh bien.
Ce qui est quand même incroyable, quoi, parce que comme gestion catastrophique, aux États-Unis, ça va être, avec l'absence de sécu, j'imagine que ça va être.
Ouais. Il y a eu des millions de chômeurs en quelques jours.
Ouais.
Bon.
Donc, je sais pas. Mais je sais pas. D'un autre côté, on peut imaginer aussi que ça puisse faire l'effet contraire. L'économie aura tellement souffert de la crise qu'on va dire, on va être obligé de mettre de côté nos ambitions écologiques pour sauver l'économie. Et dans ce cas-là, ce sera encore pire.
Ok, merci Loïc. On va se quitter en musique, hein, parce qu'il faut aussi se donner du moral. Et bon, je t'ai proposé de choisir un morceau, une de tes créations. Est-ce que
Ouais.
tu veux bien la présenter?
Je pense que le choix le plus judicieux serait, est-ce que mon projet le plus récent, qui a déjà 2-3 ans maintenant, mais c'est le projet le plus récent enregistré, hein, c'est de la musique que j'avais écrite pour un quartet que j'ai ici avec donc 3 musiciens suédois, trompettiste, batteur et bassiste. Je peux même donner leur nom. D'ailleurs, Staffan Svensson, un excellent trompettiste de Göteborg, Gothenburg. Peter Nilsson et Mathias Hjort, deux musiciens avec qui j'ai joué d'ailleurs en France il y a quelques années maintenant. Donc mon quartet et un quintet à vent classique. Donc j'avais écrit et arrangé de la musique pour cet ensemble de 9 musiciens. Donc faut que je choisisse le morceau, mais ça va être un de ces morceaux-là.
D'accord, et eh ben on l'écoute. Salut Loïc et salut
Merci
à la
Jean.
Suède, et salut à tout le
Et
monde.
prends soin de toi. À
Merci.
bientôt.
Ciao.
Salut.